La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mardi, c'est le deuxième jour de notre série consacrée à Blaise Cendrars. Oui, j'apprends qu'en fait, on dit Blaise Cendrars et pas Cendrars. Ça me confirme mon invité d'aujourd'hui. Une émission qui vous est proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Chloé Kaczmarek, David Jakubowiez et Alexandre Dang. Le Blaire de Blaise était légendaire, non seulement parce qu'il lui donnait une trogne un peu roublarde, mais surtout parce que c'est par le flair qu'il appréhendait le monde. Il flaire les gitans du Kremlin-Bicêtre, les cambistes de Wall Street, les baronnes hystériques, les forts en gueule, les caïds, les errants des grands chemins et les contrebandiers, nous racontait d'ailleurs Patrice Delbourg hier dans une émission portrait à retrouver en podcast. Demain, avec l'écrivaine Gisèle Bienne, nous reviendrons d'abord sur la prose du Transsibérien, grand poème novateur, illustré par Sonia Delaunay. Puis nous parlerons de la Première Guerre mondiale, durant laquelle Cendrars a perdu un bras à la ferme de Navarin. Enfin jeudi, c'est en première partie que Philippe Forest nous dira pourquoi il considère Le lotissement du ciel comme l'un des meilleurs livres du XXe siècle, si ce n'est le meilleur. Puis Myriam Boucharinck nous parlera de Cendrars, journaliste. Et aujourd'hui, aujourd'hui, à l'occasion de la sortie en deux volumes de Pléiade des œuvres poétiques et romanesques de Cendrars, je reçois celui qui en est l'artisan, Claude Leroy, longtemps professeur à Paris-Nanterre et grand spécialiste de l'auteur de l'or. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Nous étions en 1891 ou 12. J'avais 4 ou 5 ans et on ne voyait que moi à bord. Escorté de mon matelot, ce bon géant qui faisait mes 36 volontés, me montant au lit de corbeau du mât de misaine, me descendant à fonte calme par le trou d'homme et de l'écubier, me promenant dans les machines et jusqu'au bout du tunnel des arbres de couche, là où il faut se glisser en rampant pour atteindre le point où l'on sent gargouiller les hélices, vibrer la coque comme une membrane, couler l'eau profonde de la mer à l'intérieur de l'oreille. Et assis au centre de ce point idéal et d'équilibre instable, on participe à tous les mouvements du navire qui, comme une bête rétive, appuie à gauche, appuie à droite, fait grincer les guindes du gouvernail, reçoit des gifles, des coups, des chocs, fonce en avant pour ne pas se cabrer, s'affaisser par l'arrière, couler, s'arrache, peine et travaille.
Un extrait de Bourlinguer, lu par Cendrars lui-même. Bonjour Claude Leroy.
Bonjour.
J'ai envie tout d'abord de vous faire réagir sur cet extrait de Bourlinguer. C'est un récit, mais c'est peut-être avant tout de la poésie pour vous.
Oh, c'est une des formes de sa modernité. Hein. Moderne comme Cendrars, dites-vous. Moderne comme la rencontre de Cendrars avec les paquebots, avec le bel optimisme des machines. Il voyageait très tôt, apparemment, d'après ce qu'il dit, d'une manière un peu clandestine dans les bateaux. Mais plus tard, plus grand, quand il fait le voyage de New York pour le premier voyage du Normandie, c'est dans les soutes qu'il voyage. Mmh. Et c'est de la poésie vivante, oui.
Vous diriez qu'il est avant tout poète, que ce soit évidemment dans les poèmes, mais aussi dans les romans.
Oui.
C'est d'abord ça, Cendrars.
Oui, c'est un poète. Le poète de poèmes est une partie de sa vie et avec laquelle il a rompu. Alors, il y a deux dates pour ça, il en donne deux. Hein. Il y a 1917 sur le plan symbolique, la décision, 1924 pour la fin réelle de la publication de recueil.
Ouais. Alors, c'est un poète, mais c'est un poète tout terrain, pourrait-on dire.
tout terrain discursif, oui, ça c'est sûr. Et pas seulement le discours, parce que pour lui, effectivement, la poésie se vit. Elle n'est pas uniquement, et peut-être même pas d'abord un travail d'écriture, hein. Elle est dans un rapport au monde, elle est dans un rapport, alors vous parliez de Blair tout à l'heure, hein, les rapports sensuels, effectivement, au bel optimisme des machines, au beau joujou de la modernité.
Ouais, il était du genre à dire qu'il n'y avait pas que l'écriture qui comptait pour lui, mais que le grand air, la vie, les voyages, la vie dangereuse, c'était peut-être aussi, voire plus important.
Oui, la vie dangereuse, ça c'est une expression qu'il a peut-être prise à Nietzsche, mais enfin en tout cas qu'il a fait vivre pour lui dans pas mal de ses livres. C'est un de ses poèmes qui porte ce titre, puis un poème en prose, et puis un recueil d'histoires. Ouais, bref, c'est une définition effectivement de ce qui compte pour lui, c'est-à-dire la vie, tout sauf justement une vie de fonctionnaire, une vie d'assis. C'est une vie en mouvement perpétuel, oui, de voyageur. Mais le voyage, pour lui, c'est autre chose que le déplacement.
Donc tout sauf l'ennui. C'est l'ennui qui est le grand répulsif.
Oui, il avait des périodes de crise. Hein. Il avait des périodes de repli, des périodes où vraiment il se cachait, où il n'arrivait pas à écrire. C'était un critère, ça. Quand il n'arrivait pas à écrire, effectivement, c'était très mauvais signe. Mais l'ennui, oui, Cendrars et ennui ne riment pas du tout ensemble.
Donc, contre l'ennui, il faut bourlinguer. Bourlinguer, c'est un mot qu'il a lui-même forgé, d'ailleurs, Claude Leroy.
C'est comme la modernité chez Baudelaire. Hein. Baudelaire l'a pas inventé, la modernité. Le mot existait déjà, mais il a fait mieux, hein, il l'a lancé. Et on peut dire que Cendrars a lancé le mot de bourlinguer, effectivement, oui. Une façon de prendre le vent de l'éventuel, de surtout répondre, justement, aux invites de l'inconnu.
À la rencontre et toujours devenir l'autre. C'est ça qui est important, d'être l'autre.
Être l'autre, oui. Je suis l'autre, c'est une formule de Nerval qu'il a découvert très tôt et qu'il reprend comme une sorte de devise personnelle, oui. Je suis l'autre.
Alors vous dites que ce à quoi il convient de s'intéresser, c'est à son projet d'écriture. Vous le dites dans votre belle préface à l'édition de La Pléiade qui vient de sortir. Et vous soulignez qu'au fond, il est un inventeur. D'ailleurs, il aime beaucoup les inventeurs, Cendrars, Claude Leroy.
Bah, il se dit fils d'un inventeur. Hein. Le père Cendrars n'existe pas. Le père Sauzère, puisqu'il est né Sauzère avant de se vouloir Cendrars. Le père Sauzère était un inventeur, du moins tel que son fils le présente, et un inventeur malheureux. C'est-à-dire que c'est, au fond, une figure à la fois de très grande proximité, bon, c'est son père naturellement, et de rejet. Hein, d'abord, le dépouillement du patronyme pour se faire un nom nouveau, c'est vouloir rompre effectivement la chaîne. Et puis, c'est un perdant magnifique, son père. Un peu paumé, mais un homme généreux, apparemment. C'est-à-dire qu'il a un rapport très ambivalent à cette figure dans ses textes. Mais il garde l'invention. Simplement, il se l'approprie, bien entendu. En particulier, il dit avoir inventé un sel du Cresson. Bon, ce qui a à entendre sûrement sur un plan métaphorique.
Et pourtant, inventer, c'est difficile, surtout dans le domaine de l'écriture.
Écrire, ce n'est pas réellement vivre. Ce n'est pas la vie du corps. On peut s'excuser en disant que c'est la vie de l'esprit. Ce n'est pas la vie de l'esprit. La vie de l'esprit est la contemplation. Écrire, c'est pour nous autres, aujourd'hui, hélas, un gagne-pain. Et pas le plus drôle de tous, ni le plus adroit. Il y en a qui rapporteraient beaucoup plus. C'est donc un vice, c'est une mauvaise habitude. C'est pourquoi ça me dégoûte, 9 fois sur 10. Je n'aime pas du tout écrire. Je ne suis pas le seul parmi les écrivains qui dit ça. Il paraît que Colette également se plaint toujours d'être obligée d'écrire.
Et ça, c'est encore une chose que vous avez répété souvent, mais enfin, si on considère le nombre d'ouvrages que vous avez publiés, on s'aperçoit tout de même qu'il y a un nombre considérable de volumes.
Oui, il y en a une quarantaine, une cinquantaine, je ne sais pas, mais qui sont plutôt les produits de ma paresse que de mon activité. Pas jamais j'ai été un monsieur qui écrit dans un cabinet tant d'heures par jour, etc. J'ai essayé de le faire ces dernières années pour rattraper le temps perdu durant l'occupation. Eh bien, au bout du troisième, du quatrième, du cinquième volume, je crois que j'en ai fait cinq, j'en ai marre. Et je souhaite qu'une seule chose, c'est de m'arrêter de nouveau.
Entretien célèbre avec Michel Manol. Vous y croyez, vous, à cette haine de l'écriture, au fond ?
Si la passion mêle l'amour fou à la haine, une bonne dose de haine, oui, oui. Mais c'est un amoureux fou de l'écriture. Ce qu'on pouvait mal mesurer avant de découvrir ses archives. On les a découvertes, ses archives, dans les années 80, à Berne, elles sont là-bas. On voit alors, d'abord avec tout de même beaucoup de surprise, à quel point il travaillait ses textes sur de longues périodes par de multiples réécritures. C'est quelque chose effectivement qui est très stupéfiant quand on écoute à côté de ce qu'on voit, donc les commentaires de Sandra. Il faut les mettre en perspective. C'est sûr qu'il travaille toujours à sa légende, il prend une pause, il veut ne pas faire homme de lettres, ça c'est sûr. L'homme de lettres, pour lui, c'est évidemment une
C'est parce que l'homme de lettres est quelqu'un qui est assis, et lui souhaite plus que tout ne pas être ça. Oui. Il souhaite être en mouvement en permanence.
Il ne se montre à une table d'écriture que sous l'objectif de Doineau, dans sa cuisine, d'Aix-en-Provence. Sinon, on ne le voit pas, effectivement, en train de travailler. Il ne se montre pas en train de travailler. Il y a une pudeur. Une pudeur, effectivement, du créateur.
Donc il commence par être poète. Et d'abord, il lit les grands poètes, Rimbaud, Nerval, Rémy de Gourmont aussi. Et puis, en 1924, il y a cet adieu au poème. Peut-on d'ailleurs exactement le dater ?
Alors, si on le suit, lui, et comment ne pas le suivre, même si parfois c'est difficile à interpréter, il y a deux ruptures. La rupture, c'est 1917, celle qu'il donne, qu'il répète, mais il la donne tardivement, cette rupture. Il la signifie, effectivement, dans L'homme foudroyé en 45, c'est-à-dire 30 ans après. Cette rupture de 1917, elle est liée à d'autres éléments majeurs de sa vie, et d'abord à la blessure. Il s'est engagé en 14, il a été amputé de son bras droit en 15. On suivi deux années de grande dépression. Puis en 1917, justement, au cours de l'été 1917, il y a une sorte de jaillissement, de renaissance, qui est lié pour lui à... Ça apparaît dans ses textes d'une manière assez fascinante, qui est liée à sa découverte, à la découverte de son autre, justement, l'homme gauche, le poète de la main gauche. Alors ça, c'est une date clé, naturellement. Mais dans les faits, si on regarde la chronologie des publications, il publie des poèmes jusqu'en 1924.
Oui. Mais 1917, c'est aussi au cœur du monde, c'est-à-dire ce poème d'une très grande nouveauté qui jaillit, comme ça, presque venu de rien, dans l'esprit de Sandrard, et que d'ailleurs il ne publie pas tout de suite, peut-être parce qu'il le trouve, en tout cas c'est ce qu'il dit, trop novateur. C'est ça. Donc il va le clouer, je crois, quelque part dans une caisse, et l'oublier, ou faire comme si il l'oubliait pendant de nombreuses années.
On n'a jamais trouvé la caisse. On ne la trouvera jamais, probablement, parce que c'est un poème non pas imaginaire. On a des fragments.
Qui sont reproduits d'ailleurs dans le volume de la Pléiade qui paraît.
Oui, mais c'est un poème resté inachevé. Et c'est le poème de l'adieu au poème. Donc ce qu'il cloue, en fait, c'est comme on crucifie pour une renaissance qui s'est faite, évidemment, sur un autre mode d'écriture et qui est le récit, d'une manière globale, le roman. Oui.
Et alors le roman, c'est un genre qui lui vient quand même de son passage au Brésil. C'est comme si cette découverte de cette terre, qui est pour lui d'ailleurs comme une île, expliquez-vous dans votre préface, comme si cette découverte le faisait passer à autre chose.
Il marque soigneusement, il a construit, n'est-ce pas, son œuvre, Sandra, contrairement à la réputation qui a longtemps été la sienne d'improvisateur, d'homme de coup d'écriture, etc., ou de coup de théâtre. Il a construit son œuvre. Et il y a deux lieux, deux voyages qui sont déterminants pour lui. Le premier, c'est le voyage en Russie, lorsqu'il est envoyé adolescent comme commis horloger. Il revient de Russie poète.
Oui.
Et puis, en 1924, il rompt avec Paris, il rompt avec les milieux littéraires parisiens, et surtout, en somme, le mouvement surréaliste, avec lequel il a très peu d'acquaintance. Il se rend au Brésil, et il part effectivement pour continuer, pour reprendre plus exactement, parce que c'est un cinéaste déçu qui s'en va. Entre-temps, il y a eu une tentative effectivement de réalisation au cinéma qui a mal tourné.
Ce qui montre bien qu'il touche aussi à tous les genres, poésie, roman, oui. Mais aussi cinéma, mais aussi intérêt pour la radio.
Bien sûr, la radio c'est plus tardif, mais la radio c'est très important pour lui aussi, bien sûr. Moderne comme la rencontre de Sandra avec la radio, avec le phonographe, avec le gramophone. Au Brésil, il part pour redevenir poète. Il dit lui-même dans Feuille de route, hein, qu'il écrit sur le Formos, qu'il emmène au Brésil. Il fait la liste des manuscrits qu'il emporte. Bon. Et il y a au cœur du monde, bien entendu. Alors, il compte revenir avec des poèmes, avec de nouveaux poèmes. Il écrit Feuille de route sur le bateau. Ce sera son dernier recueil. Mmh. C'est très remarquable. Et donc, là-bas, il vit cette rencontre avec le Brésil comme la rencontre avec une sorte de terre promise. La terre promise de son pseudonyme, hein. Brésil, Blaise, il a beaucoup travaillé, naturellement, cette vérité du signifiant. Et là-bas, il se vit comme une sorte de nouveau découvreur du Brésil, nouvel inventeur du Brésil, parce que le Brésil a été découvert déjà, mais il revit à sa façon. Des hommes sont venus, dit-il. Il est de ces hommes qui reviennent, et qui reviennent effectivement à la fois féconder une terre, se féconder eux-mêmes, et cette fécondation pour lui, c'est le roman. Et c'est en somme au retour qu'il écrit, qu'il reprend, parce qu'il y rêvait déjà, qu'il reprend l'histoire du général Sutter, le découvreur ou le conquérant de la Californie.
Mais là, on n'est plus au Brésil, en effet, on est oui. aux États-Unis, avec ce roman qui s'appelle L'Or, qui est donc le premier roman qui sera écrit par Blaise Sandrard. C'est son texte le plus célèbre, également Claude Leroy.
C'est le texte qui lui a ouvert effectivement un grand public. Auparavant, c'était un poète, alors, il n'aime pas le mot d'avant-garde, mais c'était un poète, disons, qui vivait, qui travaillait dans les milieux, qui publiait surtout dans les milieux d'avant-garde des éditions à petit tirage, avec ses amis peintres, etc. Donc il était connu dans un certain milieu. Et là, évidemment, Grasset, ça lui ouvre un tout autre public.
C'est un livre que vous avez mis très longtemps à écrire. Vous l'avez transporté avec vous pendant 10 ans. Et vous ne l'aviez pas d'abord conçu sous la forme d'un récit, enfin sous la forme d'une biographie de Sutter, mais sous la forme d'un roman. Et qu'est-ce qui vous a incité à transformer ce livre ?
J'en sais rien, mon vieux, je vous ai déjà dit l'autre fois que j'ai trimballé l'or 10 ans dans ma tête. Et un beau jour, je me suis mis.
Vous avez transporté
au
Brésil.
Je devais donner un roman à Grasset, c'était Moravagine, pour lequel roman j'avais traité. Et comme la fin de l'année arrivait et que je tenais absolument à réveillonner à Paris, n'ayant pas le sou, j'ai pondu l'or en 6 semaines. Voilà pourquoi je l'ai écrit sous cette forme-là.
Et vous étiez à ce moment-là chez le docteur Osvaldo Patrosso. Non, vous n'étiez pas, vous l'aviez.
J'ai quitté ça au Tremblay sur le monde, je voulais pour lui réveillonner à Paris.
C'est ça, oui.
Pour lui réveillonner à Paris, j'ai écrit l'or en 6 semaines et je n'aurais pas pu l'écrire en 6 semaines.
Mais c'est un roman.
Si je ne l'avais pas transporté dans mon ciboulot durant des années et des années, envisagé de l'écrire de toutes les formes possibles, imaginables.
Vous l'avez écrit au présent de l'indicatif pour finir.
Oui, à la fin, oui.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Blaise Cendrars avec vous, Claude Leroy. Nous l'écoutons aussi, c'est toujours amusant d'entendre Blaise Cendrars, même s'il a tendance à secouer un petit peu ce pauvre Michel Manol qui l'interroge. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, sur ce roman, Laure ? En quoi est-il pour vous important ? Qu'est-ce qui vous attache à lui ?
C'est le roman du passage de la ligne, n'est-ce pas? Il est revenu du Brésil avec les poèmes de feuilles de route, qui sont des poèmes qui ont longtemps été un peu négligés, qu'on redécouvre aujourd'hui comme une sorte de chemin très, très passionnant, très nécessaire vers le récit. Ce sont des poèmes qui tendent vers le prosaïque, et entre les feuilles de route et l'or, le chemin, d'une certaine façon, est assez linéaire. Alors, ce qui est frappant dans l'or, c'est bien sûr ce changement de réception de Cendrars. Il devient un auteur, effectivement, de romans d'aventure.
À succès, d'ailleurs, c'est un livre qui continuera de se vendre pendant des années. Oui, je crois que c'est une des plus grandes ventes en poche de l'histoire.
C'est son livre le plus souvent réédité et le plus souvent traduit, oui. En même temps, ce roman, qui est un roman, en effet, qui marque un tournant dans sa vie, dans son image, dans sa présence comme écrivain, ce roman n'est pas représentatif de son œuvre. C'est tout à fait remarquable. Lorsque Moravagine, qu'il a commencé avant l'or, paraît l'année suivante, 25 l'or, 26 Moravagine, la critique était très étonnée de constater que Cendrars, le même Cendrars, était l'auteur de romans aussi différents que ce roman linéaire, en somme, qu'est l'or.
Et ce roman de destinée, puisque c'est la destinée, d'un homme.
Oui, et ce roman foisonnant, extrêmement composite, et avec de forts morceaux, justement, de prose poétique, qu'est Moravagine. Comment, effectivement, concilier ces deux veines chez le même écrivain?
J'aimerais bien revenir un petit peu quand même sur la thématique de l'or, cette histoire assez extraordinaire, qui est une histoire vraie, de cet homme qui part de Suisse, qui va jusqu'en Californie, qui fait fortune en Californie, et parce que on va trouver de l'or sur ses terres, va faire faillite, parce que on vient envahir ses terres et finalement le dépouiller de tout ce qu'il a construit. En quoi est-ce que ce sujet a pu passionné Cendrars? Pourquoi s'est-il, pendant 10 ans, il le disait, même s'il l'a écrit pendant quelques semaines, mais il a porté ce récit pendant 10 ans, pourquoi finalement s'est-il passionné pour cet homme Sutter?
Bon, il y a certainement une parenté d'origine. Bas Sutter est un Suisse, comme Cendrars.
Un Suisse qui a quitté la Suisse.
Un Suisse qui a quitté la Suisse, comme Cendrars. Puis qui a quitté la Suisse dans des conditions difficiles.
Qui a abandonné sa famille.
Qui a abandonné sa famille, comme le fera Cendrars. Bon.
Il n'est pas devenu riche, Cendrars. Il n'est pas devenu l'homme le plus riche des États-Unis.
Oui, non. Mais il a rêvé toute sa vie de faire des affaires. Ça revient, c'est très étonnant. L'argent lui brûle la main, de toute évidence. Quand il en a, il le dépense aussitôt. Mais il rêve de faire des affaires mirifiques. On lui donne, au Brésil, une propriété des terres aussi vaste que la Suisse. Belle image, en tout cas. Ce qu'il aime en Sutter, c'est justement l'ambition. Le fait d'oser, de se lancer, de partir comme ça, justement, à l'aventure. Mais réussir, c'est pas tellement intéressant. Et donc, c'est un perdant magnifique. Et ça, c'est très frappant chez lui, ce goût, effectivement, pour l'échec grandiose. Ça lui sert de miroir, ça compense sûrement d'autres choses qu'il aurait bien aimé faire, être peut-être un écrivain mieux reconnu plus vite. Mais ce qui est très frappant, c'est cette... Ce goût, au fond, dans toute son œuvre, du foudroiement. Oui. C'est un homme foudroyé que Sutter.
Et alors, Jean Galmot, qui est donc le héros d'un autre de ses livres, Rome, c'est un petit peu la même histoire. Oui. C'est un homme d'affaires qui veut faire le bien en Guyane où il vit, qui monte un certain nombre d'exploitations et qui va être empêché, qui va être traîné dans la boue et qui va même peut-être être assassiné. Également une histoire vraie.
Oui, c'est une seconde vie d'homme foudroyé, de perdant magnifique, qui aurait pu faire série. Mais ça s'inscrit dans une période qui est celle des vies romancées, n'est-ce pas? Sandra n'est pas seule. Au tournant des années, au milieu des années 20, à se passionner pour les vies, justement, magnifiques, illustres, etc. Donc il s'inscrit dans un mouvement, mais dans un mouvement qui est justement un mouvement de si je puis dire, un contre-mouvement, c'est-à-dire montrer des vies grandioses, mais justement grandioses parce que dans l'échec, des têtes brûlées d'une certaine façon. Ça l'intéresse beaucoup plus, effectivement, que le fait de faire carrière, de réussir, d'être un conquérant qui réussit vraiment ses conquêtes.
Des têtes brûlées, et en même temps, il les sanctifie un petit peu. Il en fait réellement la géographie.
Oui, ce sont des martyrs de l'aventure moderne, oui. Oui, sur le modèle de la géographie. C'est un lecteur de Voragine, hein, et de la légende dorée. Et l'or, c'est dans l'or, on entend aussi légende dorée. Hein, c'est...
Et alors pour vous, Moravagine est un roman plus important finalement que ses récits de vie, qui en tout cas pour lui est plus central.
Moravagine, c'est son double, il l'a dit. C'est son double négatif, noir, bon, très intime en même temps. Sans Moravagine, il n'aurait pas écrit. Mais submergé par Moravagine non plus, c'est Moravagine qui aurait écrit. Et d'ailleurs, dans le premier état de ce roman, c'est Moravagine qui a écrit.
Ouais. On peut redire un petit peu qui est ce personnage.
Ah, Moravagine, c'est un fou, un fou dangereux, mis
en asile.
Dans un asile qui ressemble beaucoup à une prison, naturellement, et son médecin, qui tourne à l'antipsychiatre, le libère pour le voir à l'œuvre. Et donc le lance, et se lance avec lui, à travers le monde, poursuivre ses assassinats, parce que c'est un tueur à couteau qui tue les petites filles et les femmes, d'une façon plus générale. Et ce personnage-là, donc... Pour l'antipsychiatre, effectivement, ce personnage-là devrait être à l'origine d'une nouvelle forme de vie, d'un nouveau rapport, effectivement, à l'instinct et au corps. Et ça tourne court, naturellement, ça tourne court. Mais bref, c'est le démon de Sandrard, son double noir.
Donc c'est la pulsion ?
C'est la pulsion, oui.
C'est la perversion ?
C'est le goût de la mort, le goût de la destruction. Oui.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
On va continuer, Claude Leroy, d'explorer avec vous Sandrard et la question de la modernité, notamment en seconde partie de cette émission. Mais tout de suite, c'est le moment d'aller jeter un coup d'œil au sommaire de la revue Critique avec son directeur qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, Philippe Roger. Bonjour.
Bonjour.
Un mot peut-être d'abord sur ce qui a été dit en première partie sur Blaise Sandrard, dont je suis sûr que vous l'aimez beaucoup, Philippe.
Mais effectivement, vous ne vous trompez pas, je l'aime beaucoup. Je l'ai découvert, ce qui n'est pas très original, à travers l'or dont vous venez de parler ensemble. Je crois que tout le monde dans ma génération a souvenir de ce petit livre de poche avec ses couvertures tumultueuses, colorées et tellement merveilleuses du livre de poche des débuts. Et j'ai été complètement frappé par ce récit, pour les raisons que vous avez dites, c'est-à-dire l'idée d'une épopée de la perte, une épopée en pure perte, et puis peut-être aussi parce que il m'était pas venu à l'idée. Moi, j'aimais pas le roman historique comme genre, ce que je pensais être un genre. Et là, c'est pas du tout ça, quoi.
C'est un
roman d'aventure, et c'est aussi une poésie de l'histoire. C'est ce qui m'avait beaucoup.
C'est l'histoire de l'Amérique.
C'est ce qui m'avait beaucoup touché. Alors, je viens d'apprendre, grâce à vous, Mathieu, que Philippe Forest a pour texte préféré le lotissement du ciel. Oui. Et dans mes lectures plus récentes, c'est le lotissement du ciel qui m'a vraiment ébloui, que j'ai découvert d'ailleurs dans l'édition Quarto, paru il y a quelques années.
Eh bien, je vous donne rendez-vous alors jeudi prochain pour écouter ce que Philippe Forest en dira. Alors parlons un petit peu de la revue Critique. Au sommaire, un dossier Charles Péguy. Péguy, est-ce bien actuel? Est-ce bien raisonnable?
Alors non, disons même que Péguy est franchement inactuel. Et c'est sans doute pour ça que nous avons titré ce numéro Péguy, l'intempestif, intempestif, inactuel, je ne vous l'apprendrai pas, cher Mathieu. Ce sont les deux traductions françaises concurrentes pour le terme que Nietzsche emploie, Unzeigemüsse, les considérations inactuelles ou intempestives.
Ah, donc vous faites un rapprochement entre Péguy et Nietzsche, est-ce que ce n'est pas aussi là un peu inattendu?
Alors, c'est pas moi qui le fais, c'est Jean-Luc Marion, dans l'entretien que nous publions. Et où il pose cette question, et si Péguy était notre Nietzsche? Une question provocante, hein, comme il se doit avec Péguy. Et Jean-Luc Marion en appelle à de nouvelles lectures. En même temps, il en appelle à Péguy lui-même. Et, comme disait à peu près Bernanos, quand on appelle Péguy, il répond toujours.
Donc vous diriez que notre époque fait toujours appel à Péguy?
Mais je crois qu'il y a bien des signes dans ce sens. Posons-nous la question, combien d'écrivains en 2017 ont fait l'objet à la fois d'un spectacle à Avignon, d'une conférence de carême à Notre-Dame de Paris et de causeries dans une brasserie parisienne, on n'a pas le droit de la nommer, je pense que c'est de la publicité illégale à votre antenne, où se tient chaque lundi un café Péguy. Mais bien sûr, bon, ce qui nous paraît à nous, à Critique, le signe décisif de la présence de Péguy parmi nous, ce sont les livres qui lui sont consacrés et dont nous rendons compte ici, en particulier le livre de Camille Riquier, Philosophie de Péguy ou Les mémoires d'un imbécile, paru au PUF, et le livre d'Alexandre de Vitry, Conspiration, au pluriel, d'un solitaire, paru aux Belles Lettres.
Alors à quoi ça ressemble ce Péguy nouveau, ce Péguy actuel? Quel portrait peut-on en faire?
Alors je dirais, pour aller vite et bien trop vite, que c'est un Péguy sans le péguisme. Il faudrait même dire sans tous les péguismes qui entravent notre lecture de Péguy. Le Péguy, les Péguy obligés, si j'ose dire. Hein, le Péguy socialiste, le Péguy converti, le Péguy patriote, le Péguy poète catholique avec les traits d'union. Hein. Camille Riquier nous présente un Péguy philosophe qui cherche à maintenir la présence du présent en congédiant le modernisme. Et philosophe, son Péguy l'est notamment au sens où il pose à la philosophie le problème de son lien à l'action, à l'avènement, à l'histoire, à la situation. Et on peut rappeler au passage que l'usage philosophique de ce mot « situation » que nous associons à Sartre, ou parfois même au situationnisme, nous vient de Charles Péguy.
Et puis il y a l'individualisme civique de Péguy.
Voilà, alors c'est le livre d'Alexandre de Vitry, et c'est une impressionnante synthèse qui met en lumière ce qu'il appelle l'individualisme civique de Péguy. Le paradoxe de Péguy, nous dit Alexandre de Vitry, c'est cette extrême solitude à laquelle aboutit sa passion de la justice, de la vérité et de la cité surtout. Une solitude paradoxale, inéluctable en même temps. Car le civisme de Péguy, écrit encore Alexandre de Vitry, se déploie dans un monde où tout civisme est rendu impossible. Et c'est pourquoi Péguy ne peut conspirer qu'en solitaire, peut-être comme nous, peut-être comme chacun de nous, peut-être comme certains d'entre nous. Avec Péguy, il me semble qu'on finit toujours sur des questions, et c'est en cela aussi qu'il nous est précieux.
Questions auxquelles vous apportez donc un certain nombre, tout de même, de réponses dans la revue Critique du mois de novembre. Courez donc vous la procurer dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Philippe Roger. À bientôt. On continue de bourlinguer avec Blaise Sandrard dans la compagnie des auteurs. Claude Leroy, qui vient d'éditer ses œuvres poétiques et romanesques dans la collection de la Pléiade en deux volumes, est aujourd'hui notre guide.
Cet homme, c'était la vie même, Sandrard. Sandrard, c'était C'était un défricheur, c'était un pionnier, c'était une manière de bulldozer de la poésie, c'était une excavatrice, c'était une force de la nature, jamais en place. Blaise Cendrars était admirablement riche, il inventait partout, il a donné partout, il a donné peut-être même son nom à l'école de Paris à ses amis peintres. Cendrars, c'était une force en ce sens que c'était un jaillissement verbal continu, une espèce de fontaine de vie, une fontaine de jouvence. Et c'est cela qui avait tant surpris un certain nombre de ses compatriotes suisses. Parce que lorsque je suis allé à Neuchâtel vers 1948, j'ai trouvé une partie de la famille de Cendrars, et notamment un cousin. Et ce cousin était pasteur, et ce que me disait le cousin était assez ahurissant. Il me disait à peu près ceci, Fritz Hauser, Soserhal, c'est le nom de mon cousin, eh bien, Fritz Soserhal, c'est un menteur. Toutes les histoires qu'il a racontées, elles n'étaient pas vraies. L'histoire des sept oncles, il n'y a jamais eu sept oncles dans la famille. Le père qui tirait au pistolet ou au revolver, il ne tirait pas, et ainsi de suite. Et il partait, le bon pasteur en était resté à sa notion extrêmement primitive et en quelque sorte myope de la vérité. Il n'imaginait pas que, selon le Cocteau, Cendrars était un mensonge qui disait toujours la vérité. Il ne pouvait pas comprendre que cette invention, cette espèce d'hallucination verbale de Cendrars, qu'il mettait partout ces accumulations extraordinaires d'adverbes, de phrases, de propositions étonnantes qu'on trouve dans cette description aussi bien de l'Amazone que de la Seine, cela, c'était la vie même, c'était la poésie, c'était Blaise Cendrars.
Une évocation enflammée de Cendrars par Armand Lanoux, Claude Leroy. Cette hallucination verbale dont Armand Lanoux parlait à l'instant, ça vous semble une bonne définition du style accumulatif de Cendrars ?
Oui, oui, il est dans le trop, Cendrars. Hein. Le trop, c'est trop, hein. Justement, le trop. Oui, l'inventaire, la liste, le dénombrement, l'énumération, la collection, la série, il y en a tellement chez lui.
Donc ça, c'est sa modernité, à lui. Enfin, c'est une des formes de sa modernité.
C'est une des formes de sa modernité, celle qui le relie à Rabelais, qui le relie à Whitman, qui le met beaucoup, oui, à Jules Verne.
Mais alors, cette modernité, elle recouvre quoi ? Parce que il y a une autre modernité à l'époque de Cendrars, à laquelle il n'adhère pas, il n'aime pas tellement les manifestes de cette époque-là. Comment est-ce qu'on pourrait définir les traits fondamentaux de sa modernité à lui ?
Dans le dialogue ici, c'est le dialogue du poète seul et des mouvements en isme qui sont effectivement si nombreux dans les années 10 et dans les années 20, et tout particulièrement le dialogue difficile, le non-dialogue, mais tout de même très attentif, de Cendrars et de Breton. Dans les ismes, justement, même dans le cubisme, dans le futurisme, et chez Dada déjà, ce que Cendrars rejette, c'est d'abord le travail en groupe.
C'est un individualiste avant tout.
Oui, c'est un individualiste. Le créateur est toujours seul pour lui. Et il le reproche même à son ami Léger, son plus grand ami peintre, effectivement, lorsque Léger se rapproche du Parti communiste ou de l'art religieux, Cendrars dit non, ça n'est pas possible. Un créateur ne prend pas la tête d'un mouvement, ni ne se met à la traîne d'un mouvement.
Mais ça ne l'empêche pas de vivre en groupe, de vivre au milieu quand même d'une avant-garde.
Oui, bien sûr. C'est quelqu'un, effectivement, qui avait une passion de l'amitié.
Mais
et de la rupture.
La théorie ne l'intéresse pas.
La théorie ne l'intéresse pas. Il le dit, il y a un texte de jeunesse qui est passionnant à cet égard, où il, des notes qu'il jette sur un exemplaire de Poèmes et Drames, une revue de l'époque. Mes théories, quand je les connaîtrai, quand je les connaîtrai, je les aurai dépassés. Hein. Donc, elles n'intéresseront plus que les historiens éventuellement. Mais oui. Elles ne sont pas vivantes. Le créateur doit créer, et non pas créer selon une doctrine, selon une idéologie, après avoir rédigé des manifestes pour dire ce qu'il va faire. Ça, c'est de l'affichage marchand. Hein. C'est pas comme ça que se fait le travail de l'écriture.
Et puis, il ne se fait pas forcément par le poème. La modernité, ça n'est pas obligatoirement le poème, semble nous dire Blaise Cendrars, à une époque où les expérimentations formelles se font quand même beaucoup dans la poésie.
Oui, la modernité et la poésie, comme modernité, c'est aussi le voyage, c'est la bourlingue. C'est de la modernité en acte.
Et lui qui connaissait l'allemand, en bon suisse, il savait que moderne en allemand, ça a un double sens, Claude Leroy.
Oui, c'est assez terrible, n'est-ce pas ? Moderne, prononcé à la française, c'est moderne. Bon, mais modern, comme verbe, c'est pourrir. Alors, c'est un trajet tout à fait impressionnant, ce qui conduit de la modernité à la corruption, n'est-ce pas ? Une modernité de pacotille, hein, une modernité liée à la mode et fragile comme la mode. Qu'est-ce qui se démode, disait Cocteau, sinon la mode ? La mode, c'est ce qui se démode.
La modernité, ce sont évidemment aussi les machines, les inventions. Il a célébré le cinéma. D'ailleurs, dans cette pléiade des œuvres romanesques et des poésies complètes, vous avez placé le texte « L'ABC du cinéma ».
C'est un grand rêve déçu, le cinéma, chez Cendrars. Après son amputation, après cette année 1917 qui marque un tournant chez lui, un renouveau, il se tourne vers le cinéma. Mmh. Il rencontre Abel Gance, il est figurant dans J'accuse, et puis il est son assistant pour Laroux, en toute l'année 1920. Et puis il passe à la réalisation l'année suivante, en 1921, il va à Rome, il tourne un film, on le sait, il a tourné la Venere Nera, la Vénus Noire, Et puis, pour là, ensuite, les choses se compliquent un peu. Apparemment, le film a été projeté, très mal reçu, et ça a arrêté sa carrière, son ambition de cinéaste. Mais pas son rêve de cinéma. Oui. Parce que le cinéma, il en parlera toute sa vie.
Et L'or est un livre, oui. Bon, qui a été adapté oui. Au cinéma, pas par lui.
Mal.
Mais sans doute... considérait-il, ou en tous les cas c'est comme ça qu'il le présente aux personnes qui peuvent éventuellement produire ce film, il le considérait comme un scénario. En tout cas, il considérait qu'il pouvait avoir les ingrédients oui. pour un film oui. de grand spectacle.
Et il était d'ailleurs disposé lui-même à y collaborer, oui. à la réalisation de son film. Alors il y a eu deux tournages les deux en 1936, un officiel, je peux dire, aux États-Unis, et c'est un film hollywoodien dans le sens, disons, le moins stimulant du monde, et puis un film allemand, qui est un film pirate, puisque c'est une adaptation qui ne se reconnaît pas comme telle, donc plagiaire, en tout cas, du scénario, et qui est bien meilleure, à vrai dire, tout en étant en 36, n'est-ce pas, d'une idéologie quelque peu, effectivement, conforme au régime.
Le côté pirate, ça devait plaire à Blaise Cendrars.
Oui, mais être piraté quand on est un pirate, je ne sais pas si c'est tellement...
C'est un risque à prendre, j'imagine.
Oui. Il y a eu un procès, mais le procès a été interrompu en 39, évidemment, pour des raisons historiques.
Alors, il a été reporter à Hollywood aussi.
Il a été reporter.
Et là, il ne s'intéresse pas tellement aux starlettes, il s'intéresse plutôt, comme il fait toujours d'ailleurs, aux peut-être pas les bas-fonds, mais enfin, en tout cas, à la mécanique. Quoi.
À la mécanique, oui, il ne rencontre personne. C'est très frappant. Il a dit parmi ses... parmi ces éléments, disons, les éléments qui constituent sa légende, qu'il avait rencontré Charlie Chaplin quand il était encore un simple jongleur. Et bon, on peut en douter fortement. Et en tout cas, à Hollywood, il ne cherche pas du tout à le rencontrer.
Et le sens de l'à-propos de notre réalisateur David Jakubowiec qui nous fait entendre La ruée vers l'or de Charlie Chaplin à l'instant même où vous en parliez, Claude Leroy. Alors il faudrait parler quand même aussi du Sandrard et de son Sandrard lecteur et de son rapport avec les lecteurs. Dire d'abord que c'est un intoxiqué de l'imprimé et de tous les imprimés, que ce soit la littérature populaire comme la grande littérature, tout ce qui tombe sous sa main et l'intéresse.
C'est la seule drogue qu'il se reconnaisse. Hein. Il a des mots très durs pour les drogues. Laissons de côté l'alcool, naturellement. Mais la seule drogue dont ils se disent intoxiqués, c'est la lecture. Et très tôt, Apollinaire, dans une de ses chroniques, évoque un personnage, sans le nommer, sans donner son nom, qu'il appelle l'errant des bibliothèques. Quelqu'un qui ne voyage que de bibliothèque en bibliothèque. Et il énumère, Apollinaire un peu sidéré, donc 17 bibliothèques à travers le monde, qui composent sa famille. Et Sandra, longtemps après, a dit « oui, c'était moi ».
C'est-à-dire que quand il revient dans une bibliothèque, c'est comme s'il retournait dans sa famille, ou plutôt quand il va dans une bibliothèque, c'est comme il retournait en Suisse auprès des siens.
On peut dire qu'il retourne au lait de sa maman, enfin, dire sa mère dont il parle. On parlait tout à l'heure de son père, l'inventeur malheureux, hein, qui lançait des tas de choses qui s'écroulaient à chaque fois, et qui est une sorte de Suter avant la lettre.
Qui n'aurait jamais réussi, en fait, alors que Suter, tout de même, a réussi à un moment donné.
Oui. Oui, le père Sauzet a réussi à avoir un fils tout de même qui, malgré lui. Bon. La mère de Sandrard, Marie-Louise, était, il la décrit toujours comme une femme neurasthénique, qui ne s'occupait pas de son fils, qui ne s'occupait pas de ses enfants et tout particulièrement du petit dernier qui était le futur Blaise. Elle lui a donné une seule chose, dit-il, elle lui a appris à lire. Elle le prenait sur ses genoux à ce moment-là, elle avait de beaux albums, d'images, d'animaux, elle lui apprenait à lire. Voilà, c'est tout, dit-il, c'est tout ce que j'ai reçu d'elle. Mmh. C'est-à-dire que la lecture, donc le monde des livres, quel cadeau merveilleux que de donner cela à son fils, mais seulement cela. Ce qui fait qu'il y a un rapport sans doute assez ambigu pour Sandrard, homme livre, homme passionné de livres, homme fasciné par Remy de Gourmont, justement, qui est pour lui l'homme livre par excellence, hein, l'homme fait de livres, le bibliothèque à la Archimboldo. Hein. Mm. Il y a un rapport effectivement assez singulier, un rapport ambivalent, qui fait que la lecture comble et en même temps comble un manque des origines et en même temps le renouvelle, le représente.
Sur France Culture. Un grand lecteur, Freddy Sauzer, c'est comme ça qu'on prononce
Sauzer. Ou Sauzer, le bourdonneur. Hein, ouais. Sauzer, c'est le bourdonneur.
Donc il l'était, ça c'est certain. C'était aussi quelqu'un qui aimait les listes. Et d'ailleurs, il aimait beaucoup faire des listes des œuvres complètes des écrivains qu'il aimait en particulier. Vous parlez de Rémy de Gourmont, je crois que quand il était jeune, dans ses carnets, il faisait la bibliographie complète, de manière un peu compulsive quand même, de cet écrivain.
Il a un rapport un peu sadique hein, à ce qu'il aime. Quand il aime, quand tu aimes, il faut partir, ça c'est une règle générale, mais quand tu aimes, il faut effectivement d'une certaine façon détruire. Et ce qu'il dit avec un plaisir visiblement là aussi un peu ambivalent, c'est qu'il adore épuiser les auteurs. Épuiser les auteurs, c'est naturellement les lire intégralement, y compris la littérature critique qui s'est portée sur eux. Mais épuiser quelqu'un, c'est le tarir, d'une certaine façon. Et se l'incorporer, peut-être. Faire passer en lui, effectivement, ce qu'il a pris chez les autres. Il y a là une activité un peu cannibale, effectivement, chez lui.
Donc ce qui l'intéresse, c'est l'infini, c'est... tout ce qu'on peut trouver dans les encyclopédies, dans les anthologies, dans les almanachs, tout ce qui n'a pas de fin, tout ce qui peut encore prospérer.
Il a la passion des commencements, il a la passion effectivement des dénombrements infinis, il a la passion effectivement de l'inachevable, qui est très frappant quand on le fréquente un peu dans la continuité, c'est de voir à quel point dans son œuvre effective, comme il disait lui-même ne pas savoir 40 ou 50 livres, bon, il y en a mettons une quarantaine. Il y a près de cette bibliothèque importante tout de même, de 40 volumes, toute une bibliothèque fantôme, seconde, qui est faite de des projets qu'il a lancés. Il lançait des étincelles dans les livres mêmes, en dehors des livres, partout. Donc il y a une volonté de laisser ouverte son œuvre, de la laisser justement se continuer, se prolonger et donner en somme... toujours de nouvelles surprises, bien après sa mort. On découvre des choses, hein. C'est tout à fait étonnant.
Donc c'est un rapport au lecteur qui est quand même particulier. Comment vous le définiriez ?
D'abord, c'est un rapport qui, je dirais, c'est un rapport double. D'une part, il y a... et double, peut-être un peu plus que double, multiple. D'une part, bien entendu, il s'agit de, en tant que personnage voué à l'aventure et faisant l'éloge de l'aventure, d'attirer à soi, à partir de l'or, mais même auparavant, le Transsibérien, le Panama, sont des appels à l'aventure. Donc, il y a un public jeune, si je puis dire, un public effectivement prêt à se lancer dans la vie, à vivre intensément les choses. Par ailleurs, il dit « j'adore le secret ». Et on le constate. C'est une œuvre effectivement à fond multiple. Bon, il cloue un poème dans une caisse qu'il cache à la campagne. Bien, c'est une façon, effectivement, de faire comprendre que ce qu'on lit, il faut le lire, effectivement, non pas au pied de la lettre, mais s'interroger un peu, justement, sur le sens multiple de cette aventure, justement, qui est, peut-être, effectivement, du côté de l'exploration alchimique, d'une certaine conception mystique de l'existence, d'un certain rapport à justement à l'infini qui ne se nomme pas, mais qui est très remarquable, notamment dans le lotissement du ciel dont nous parlions tout à l'heure.
Mais qui est peut-être pas l'aspect le plus connu de l'œuvre de Sandrard. C'est comme ça qu'il faudrait le lire, mais est-ce que c'est comme ça qu'on le lit aujourd'hui ?
Je crois qu'il faut le lire de toutes ces façons-là. Il me semble que son lecteur, vous me demandez comment je vois son lecteur, je crois que son lecteur, c'est celui qui sait passer de la jouissance de lire, de la jouissance, effectivement, que peut donner une aventure, et de cette quête, justement, dans les textes de sens multiples, oui.
Merci beaucoup Claude Leroy pour cet éclairage sur l'œuvre de Sandrard. Je rappelle que vous avez dirigé les deux volumes de la Pléiade qui sortent. Ils sont sortis le 9 novembre dernier sous le titre « Œuvres romanesques ». Elles sont précédées des œuvres poétiques complètes. Et c'est également vous qui vous étiez occupé de l'édition des œuvres autobiographiques dans cette même collection. Demain, nous parlerons de la guerre, la Première Guerre mondiale, telle que l'a vécue Sandrard, nous le ferons avec l'écrivaine Gisèle Bienne. Nous parlerons également avec elle du poème « La prose du transsibérien ». Mais tout de suite, c'est de la poésie, mais cette fois avec Jacques Bonafé qui lit des poèmes ariégeois du XIIIe siècle, traduits par Jacques Darras.
Bonjour, bonjour la compagnie, bonjour Mathieu. Hier, avec votre doux agrément, nous sommes passés en mode jongleur, celui des trouvères de la ville d'Arras. Pour ici, moult conseils amoureux à chacun prodigués. Vous pourrez réécouter ces lets d'amour et versets bienfaisants sur le site de France Culture à JBLP, de la musique avant toute chose. Mais pour favoriser l'esprit d'ouverture, veuillez ouïr d'abord chanson légère à entendre. Et cela nous vient de Conon de Béthune, ça date de 1200-1250, aux premières croisades. Chanson légère à entendre ferait tant mes nécessités que chacun la puisse apprendre et qu'on la chante volontiers. Ni par d'autres messagers ne sera ma douleur montrée à la meilleure qui soit née. Et Conon de Béthune confie à son poème la charge de déclarer son amour le plus parfaitement possible. Si véritablement celle que je chante vaut mieux que toutes les meilleures qui sont, moi qui l'aime plus que rien au monde, que Dieu me donne son amour sans me tromper. Car tel désir, tel vouloir en est, Dieu m'en soit garant et tout ce qui est, que je désire son amour avoir autant que malade désire la santé. Moult me convie l'amour à être en joie. Ici, nous serons sensibles aux accents du poète, à l'accent du poète, qui, rappelons-le, est picard. Moult me convie l'amour à être en joie, alors que de chanter je n'ai plus aise. J'ai trop violent désir pour que m'apaise, c'est pourquoi j'ai mis mon chant en arrêt. Parce qu'on blâmait mon langage les Français, et mes chansons devant les Champenois, et devant la comtesse dont plus me pèse. La reine ne s'est pas montrée si courtoise, me reprenant elle et son fils le roi. Bien que ma langue ne soit pas toute françoise, pourtant peut-on bien l'entendre en François. Ils ne sont ni éduqués ni courtois de me reprendre si j'use des mots d'Artois, car je ne fus pas élevé à Pontoise. Que vais-je faire, mon Dieu, dire mes pensées? Irai-je vers elle, son amour demander? Oï, oui, par Dieu, car tels sont les usages qu'on ne peut être trouvère sans quémander. Si je compose dans un style téméraire, madame de moi ne doit pas s'offusquer, mais plutôt de l'amour qui m'a fait divaguer. Et petite chanson sur un rythme à six pieds, si rage et derverie et détresse d'aimer m'ont fait dire folie et d'amour déparlé, nul ne m'en doit blâmer, si à tort m'a trompé, amour que j'ai servi ne sait plus où me fier, je lui rends son hommage, prenant d'elle mon congé. Belle dame, douce et chère, votre grande beauté entière m'a tellement pris que si j'allais en paradis, je reviendrais arrière, à condition que ma prière me mît là où je fusse votre ami et qu'envers moi ne fussiez fier, car jamais en nulle manière crime n'est commis, pourquoi fissiez contre moi la guerre. Or n'aurait-ce que je n'ai dit de mes malheurs une partie et ma colère. Maudit soit le cœur envieux, faux et plus variable que Pie qui m'envoya en Syrie. Eh oui, car il est parti en croisade, Conon de Béthune. Jamais pour vous de larmes n'aurez les yeux emplis. Fol est celui qui en vous se fie, car des malheureux vous faites l'abbaye. Non, je ne vous aime mille.
Merci Jacques Bonafé, vous lisiez donc des poèmes ariégeois du XIIIe siècle.